Allez, c'est parti.
Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Salut Bissomel, chères grandes oreilles de Radio Judaïka, Ole Sempouter Hitmori. J'ai fait une place à une jeune femme qui vient de l'autre bout du monde, à vol d'oiseau, c'est à peu près 16 583 km de Strasbourg. Elle parle parfaitement le Frenchy avec un bel accent. Son monde à elle, c'est l'Australie, sa life, c'est Perth. Elle a deux prénoms, Joy, mais elle va nous raconter tout ça tout à l'heure, pourquoi elle a deux prénoms. J'ai rencontré Joy à la piscine du Wacken, elle nageait comme une sirène en me demandant... Êtes-vous australien ? Ben non, moi je suis alsacien. Et Ilsesser, vous avez un bonnet de bain aux couleurs de l'Australie avec des kangourous rivés sur la tête. Grâce à ce bonnet, nous sommes devant les micros ce matin pour faire plus ample connaissance. Alors Joy, qui êtes-vous, mystérieuse sirène d'eau douce ? Pourquoi avez-vous deux prénoms ?
Bonjour André. En fait, j'ai un prénom anglais, Joy, et j'ai un prénom hébraïque. Et lorsque nous avons décidé d'aller vivre en Israël en 2008, j'ai décidé de prendre officiellement mon prénom hébraïque, qui est donc Pnina.
Alors là, en fait, on est dans la belle place, à la bonne place ici, en dessous de la synagogue.
Tout à fait.
Vous venez de temps en temps au culte, alors, ici ?
Oui, tout à fait. Tous les Shabbats, je prie ici.
Ah, c'est intéressant. Alors, voilà, je voulais aussi voir un petit peu, vous allez souvent nager au Wacken ?
De temps en temps. En fait, mon mari s'est remis récemment à faire du sport, donc j'étais d'accord pour l'accompagner et lui donner quelques tuyaux sur la technique.
Parce que vous nagez mieux que lui ?
A priori, oui. En Australie, on apprend très jeune et puis on fait plusieurs années d'entraînement, des certificats, etc.
J'ai vu que c'est du dos crawlé, hein, surtout pour vous. Du dos crawlé, du crawl.
Oui, le moindre effort, on va dire.
et alors, j'ai vu aussi que vous avez des bouchons dans les oreilles, vous écoutez de la musique pendant que vous nagez.
Non, en fait, j'écoute des podcasts.
Des broadcasts ? Ah ouais, mais quoi par exemple ?
Oui, surtout The Economist, parfois The Daily, New York Times.
Waouh, c'est très sérieux ça, c'est très intello, non ?
Sans plus, je suis juriste à la base, donc j'aime bien me tenir au courant.
Ah oui, c'est intéressant. Mais on parlera tout ça un peu tout à l'heure. Alors moi, je voulais voir aussi, là vous nagez en fait à la piscine du Wacken, c'est de l'eau chlorée. Mais quand vous nagez chez vous à Perth, c'est plutôt de la belle eau cristalline à l'océan Indien.
Oui.
C'est plutôt paradisiaque, non ?
Paradisiaque, ça ne nous paraît pas comme ça lorsqu'on y habite, mais avec le recul, oui, c'est certainement...
Ah quand même, c'est quand même des belles plages avec du sable blanc, ouais. Tout ça, c'est quand même, c'est très beau. Hein.
Oui.
Et alors, c'est vrai que les Australiens, parce que j'ai eu la chance d'y aller à Sydney pour les JO, j'ai vu qu'en Australie, on fait énormément de sport les après-midi, le matin. Est-ce que les Australiens, ce sont des sculpteurs de corps pour avoir des belles tablettes de chocolat ? Et les filles, on peut dire des fois, c'est, quand on les voit au bord de mer, moi je dis souvent, c'est des vraies centrales nucléaires, c'est des belles femmes, quoi.
Je pense que c'est au départ une démarche de santé. On nous inculque très jeune que pour être en forme, il faut faire du sport. Et aussi, l'idée du sport collectif, il est très, très important. Mais il y a aussi un peu de ça, avoir un beau corps, oui, c'est important aussi.
Et vous avez du temps pour faire du sport en Australie ? Par exemple, les après-midi, quand vous sortez de l'école, vous allez faire du sport avec vos copines, vos copains ?
Ah oui, tout à fait. C'est pratiquement obligatoire. Non seulement on pratique les sports à l'école, mais en plus, il faut faire partie des équipes. Alors, par exemple, moi, dans ma jeunesse, je faisais partie de l'équipe de netball, qui est un sport qui se pratique dans les pays du Commonwealth, pour les filles.
Mm-hmm.
Sinon, les garçons, c'est le foot, le cricket, etc.
Ouais, c'est totalement différent de chez nous. Hein. Ici, c'est le tennis, le foot. Là-bas, vous faites beaucoup autre chose. C'est surtout des sports très anglais. Hein.
Oui, sauf un sport qui est beaucoup pratiqué à Perth, c'est le surf lifesaving.
Va s'y jeter, ça se mange.
Ce sont comme des maîtres nageurs, mais ce sont des bénévoles. Ils s'entraînent tous les matins vers 6 heures du matin à la plage. Alors, nager, faire aussi du canoë, apprendre les gestes de sauvetage, courir aussi.
Tout ce qui est sur l'eau, quoi. Oui, quasiment.
Et quasiment. Et ça se fait tous les matins et aussi en soirée, on les voit dans les clubs de surf life saving dans toutes les plages.
Ah oui. Alors, je vous parle un peu de Sydney parce que j'y étais et je me souviens, dans les criques, il y avait souvent des piscines d'eau de mer où les gens venaient nager, mais ils n'allaient pas trop dans l'eau parce que je crois qu'il y a beaucoup trop de poissons rouges, je crois, non?
C'est surtout les requins.
Oh, des requins.
Les raies.
Wow.
Et aussi ce qu'on appelle les stingers, c'est une sorte de...
Des piranhas, quoi.
Jellyfish. Comment on appelle ça, jellyfish?
Ah, je sais pas. C'est du cabillaud, non?
Avec des tentacules qui piquent.
Ah, d'accord.
Mais ils sont...
Des poulpes.
Ils sont transparents, on les voit pas.
Ah, oui, je vois ce que vous voulez
dire. Mais ça pique.
D'accord, ouais, ouais.
C'est surtout à Queensland, disons ça.
Ah, d'accord. Tu te souviens du nom, Fabien, ce que c'est exactement?
Des méduses peut-être?
Des méduses, oui, voilà, exact. C'est le mot que je cherchais. Heureusement qu'il est là, Fabien, derrière son miroir.
Méduses, oui. Exactement.
Et en fait, effectivement, vous parliez de requins, donc il y a des grandes barrières, des filets en métal pour que les requins ne viennent pas embêter les nageurs. Quoi.
Alors, sur la côte Est, ça se fait beaucoup. Sur la côte Ouest, par contre, il y a un polémique là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui disent que... On va à la mer à nos risques et périls, et puis il faut accepter que parfois il y a des requins.
Enfin, on a quand même envie, on n'a pas envie de se faire manger quand même. Hein.
Non, donc c'est pour ça qu'on nage entre les drapeaux et sur des plages servies.
Ah oui, d'accord. Alors moi, ce que j'aimerais bien, Joyce, c'est que racontez-moi un petit peu, faites-moi rêver, c'est comment l'Australie? C'est comment? C'est loin, bien sûr, mais parlez-moi des paysages, de la nature.
Voilà,
de...
alors l'Australie, c'est un pays vaste avec tous les climats. Il y a dans le nord le climat tropical, il y a semi-aride, il y a méditerranéen. Alors, les grandes villes sont toutes autour de la côte. Donc, les villes que vous connaissez comme Melbourne, Sydney, Canberra
ouais.
Perth aussi, Adelaide.
La barrière de corail un peu au-dessus, ouais.
Tout à fait. Donc, les grandes villes sont vraiment des grandes villes.
Mégapoles?
Oui, tout en plus d'un million d'habitants.
Waouh!
Par contre, en dehors des grandes villes, il n'y a pas énormément de monde.
C'est désertique, vous voulez dire?
Oui, et même dans les paysages, ce sont des fermes, mais qui font la taille d'un département français.
Waouh! Donc, il y a de l'espace, quoi, hein.
Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Et sur ces fermes-là, les enfants apprennent à distance. Donc, bien avant Internet, ils apprenaient déjà grâce à la radio. Et les fermiers se déplacent en avion pour voir leur propriété.
Ouais, génial.
C'est spécial.
Mais en fait, moi, je me souviens de plusieurs petites choses. Et je me souviens également de l'ombre. Les ombres des arbres, c'est de l'autre côté de chez nous, quoi. Tout est inversé.
Bah,
par exemple, quand on fait, oui, bien entendu, quand on fait couler l'eau dans le lavabo, bah, ça tourne dans l'autre sens.
Ouais,
c'est
exactement.
Des petites choses.
On conduit aussi de l'autre côté.
De l'autre côté, oui, ça, je me souviens, parce qu'on avait une voiture de location. Et après, les feux rouges parlent. Les feux rouges parlent. Je me souviens qu'ils disaient des choses. Et puis, quand les gens faisaient le ménage, ils avaient les aspirateurs dans le dos, comme un sac à dos. Ça, c'est des choses dont je me souviens, parce que j'avais fait des reportages pour France 2. Donc, c'est des choses qui m'avaient interpellé, quoi.
Effectivement.
Et parlez-moi un petit peu de cette différence. Je sais que vous êtes une grande voyageuse, une baroudeuse. Parlez-moi un peu de la différence entre la Nouvelle-Zélande, l'Australie, Strasbourg. Vous avez vécu également à Jérusalem. Vous êtes une grande voyageuse. Vous pensez que voyager, c'est apprendre également?
Oui, je pense qu'au départ, ça vient de ma grand-mère qui est née en Allemagne et qui a émigré en 1939 avec sa famille pour fuir l'Allemagne nazie.
Bien sûr.
Ensuite, j'ai une tante qui est partie vivre en Italie en ayant épousé un artiste italien. Et donc, quand j'ai annoncé que je voulais vivre en France, je pense que personne n'était vraiment choqué. Dans notre famille, ça se fait de partir. Et...
Tout le monde voyage, quoi.
Ouais. Oui, oui, on est très attiré par l'Europe en particulier.
Alors, vous avez une belle vie à Strasbourg? Vous êtes heureuse à Strasbourg? Ça ne vous manque pas, l'Australie?
Oui, alors, le souci, c'est que quand on est dans un endroit, on a envie d'être dans l'autre.
Ah oui.
Donc, moi, il y a des choses qui me manquent à Perth, il y a des choses qui me manquent en Israël. Mais quand je suis là-bas, il y a des choses de la France qui me manquent également.
Quoi, par exemple, le fromage, les bons repas, le bon vin?
J'adore la nourriture française, mais c'est surtout la culture, l'histoire.
Oui, parce qu'il y a une vraie histoire.
Tout à fait, l'architecture. Vous savez, en Australie, vous avez du mal à trouver un immeuble qui a plus de 200 ans.
Bien sûr.
Ici, tout est vieux. Quand je me promène à...
dans la Neustadt, ici à Strasbourg.
Strasbourg, et que je vois que c'est un quartier qui date du Moyen-Âge, c'est pour moi, c'est fascinant.
Ou alors toute cette histoire de Jugendstil dans les rues de Strasbourg, la vieille ville, c'est vrai que c'est magnifique. Moi, je dis souvent, ma ville, c'est un décor de cinéma.
Exactement.
Je trouve que Strasbourg est extraordinaire. Moi aussi, qui ai eu l'occasion, comme vous, de moins voyager, mais de voyager, de voir commencer ailleurs. Pour moi, quand je me balade à pied ou à bicyclette dans la ville, je trouve que je découvre encore des choses aujourd'hui et je suis émerveillé par ce que je vois. Et pour vous, c'est un peu la même chose?
Oui, tout à fait. Je me promène régulièrement, un peu pour faire du sport aussi, mais je fais le tour de l'île de Strasbourg.
Ah ouais.
Et je ne m'en lasse pas. C'est toujours le même parcours, mais je ne m'en lasse pas. Je passe par la petite France et j'adore.
Vous êtes au bord de l'eau alors? Vous vous promenez au bord de l'eau?
Oui, pour la plupart.
Et c'est très joli parce que le soir, c'est éclairé. C'est très, très féerique. C'est très, très beau. Ouais.
Oui.
Je crois que pour faire reposer les oreilles, on va demander à Fabien de nous mettre un peu de Zigmu. Je crois que vous avez choisi. Hein, vous allez me raconter un peu ce que c'est. Vas-y Fabien, lance le moteur.
בסלון, בקופסת הנעליים הישנה כמה נופים ומקומות ובניינים ואנשים יש מי הם היו, מה הם עשו חוזרים אליי מתוך שינה.
Alors là, Joy, il y a un intrus dans notre studio. Qui c'est qui vient nous voir, là?
Alors ça, vous avez entendu la voix de Shimrit Grelzheimer, qui est la femme du chanteur Michael Grelzheimer. Et c'était nos voisins en Israël, dans les quartiers d'Arnona.
D'accord.
Et cet album-là, en particulier, on avait l'habitude de l'écouter énormément.
En boucle, quoi.
Oui, l'album s'appelait « Béparis ». Et parce que Michael, dont le papa est originaire de Colmar, est francophone.
Mais ça chante en yiddish ou en hébreu?
Non, c'est un album trilingue, anglais, français, hébreu.
Ah d'accord, c'est intéressant. Moi, j'ai rien compris, mais parce que je comprends que l'Alsacien. Mais en fait, ce que je voulais te demander, Joy, qui c'est qui vient à côté de nous là? C'est qui ce monsieur là qui vient voir?
Ça, c'est mon mari Raphaël.
Mais il a pas confiance? Il vient vérifier ce qu'on fait ou quoi?
On est oriental, on l'est pas.
Comment ça va, Raphaël?
Ça va, André? Tu vas bien?
Moi, je suis un peu stressouille aujourd'hui, mais il y a des jours comme ça. Mais en fait, je suis très content d'être avec vous là ce matin derrière les micros. Qu'est-ce que tu viens faire ici?
J'écoutais votre conversation. Et ça m'a évoqué pas mal de souvenirs.
C'est vrai.
La dernière fois qu'on est parti en Australie, c'était, je crois, il y a 3 ans maintenant, en plein mois de février. Donc, c'est l'été en Australie, bien sûr.
En ce moment, c'est le début, c'est la fin de l'hiver.
Exactement. Mais tout est inversé.
Ouais.
Et donc, on était parti en février, c'était le plein été, et on a pèleriné sur les endroits où Peninal a vécu son enfance. On est allé dans son collège.
Alors, comment tu as trouvé sa vie d'avant?
Écoute, c'est fantastique. En plus, on est allé à 300 km au sud de Perth, qui est un endroit magnifique, un peu le paradis des surfeurs. On avait fait une observation, on avait loué sur place un Airbnb.
Et
on s'est retrouvé un matin. Enfin, le premier soir qu'on était sur place, j'ai appelé les enfants parce que je suis sorti. Et j'ai fait, regardez, levez la tête. Alors, on a tous levé la tête comme ça.
Et
qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la Voie lactée pour la première fois de notre vie, en couleur, en technicolore.
Ah, génial.
Ça n'a rien à voir. Déjà, c'est l'hémisphère sud.
D'accord.
Et en plus, on voyait du bleu, du violet, du jaune. Et on est resté comme ça bouger pendant
j'imagine moins qu'un que heure. C'est extraordinaire. Moi, j'ai un souvenir aussi de la Voie lactée quand j'étais en Afrique. En Afrique, pour le Paris-Dakar. Le soir, dans le désert, tu avais l'impression que tu pouvais les cueillir comme ça. Tu vois, les tenir, les étoiles. La Voie lactée, on appelle ça la Mélichstrauss.
La Mélichstrauss
en alsacien et en allemand.
Ah oui, Mélichstrauss, d'accord.
Mélichstrauss, c'est la Milky Way, comme dans Red Joy.
C'est ce qu'on voit sur le drapeau australien, justement.
Ah bon?
La constellation, oui.
D'accord. Ah, ça, je ne savais pas. Tu m'apprends quelque chose. Alors, tu es contente que ton mari soit venu nous rejoindre?
Oui, ça va.
On peut dire que vous êtes sur surveillance rabbinique. En fait.
Oui, c'est ça. Il y a des nouvelles oreilles dans le studio. Alors dis-moi, Raphaël, tes voyages aussi, tu as voyagé avec ton épouse, c'est pour apprendre autre chose ou pour voir d'autres choses?
Alors écoute, on a voyagé parce que d'abord, Penina, elle est avocate de formation. Elle devait donc finir l'école du barreau. Donc on a passé quasiment un an à Melbourne.
À Melbourne.
À Melbourne.
Mais c'est compatible avec la France, ces diplômes?
Elle pourrait faire une équivalence, mais c'est quand même assez difficile parce que effectivement, c'est deux systèmes, deux traditions juridiques assez différentes. Donc, ça demanderait pas mal de travail. Le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle.
D'accord.
Mais je dirais que le seul endroit où on n'a pas vécu tous les deux, c'est
Sydney.
Sydney. Mais t'as pas vécu à Sydney.
Non.
C'est à l'opposé.
C'est
ce que je voulais dire.
C'est que moi, j'ai vécu à New York. Et Penina n'a pas encore eu l'occasion d'y aller, mais c'est un projet pour nous.
Ça, c'est magnifique.
Et moi, j'ai vécu 2 ans sur New York. Wow. C'était excitant. Mais
qu'est-ce que tu as fait là-bas alors?
Alors moi j'ai étudié à la Yeshiva pendant 2 ans,
ouais.
mais c'est incroyable comme c'est énergisant cette ville.
Ouais,
je ne me suis jamais départi de l'impression que je vivais dans un film en fait. J'avais l'impression d'être vraiment dans tous les films qu'on a vus. Et quand tu connais Manhattan et qu'après tu le vois à nouveau dans un film, tu t'aperçois à quel point c'est sublimé aussi.
Ouais.
Mais vraiment c'était une expérience inoubliable quoi.
Et alors, tu me parles de ton épouse qui est avocate. Et si tu n'exerces pas ton métier ici à Strasbourg, qu'est-ce que tu fais exactement?
En fait, depuis une vingtaine d'années, je suis prof d'anglais.
Waouh!
Donc, j'ai commencé à Paris en tant que formatrice en entreprise. Le travail ne manquait pas. Ensuite, j'ai enseigné une année dans une université américaine à Paris qui s'appelle Touro College. Après, on a fait notre alliage et travaillé comme juriste en Israël. Et lorsqu'on est revenu à Strasbourg, j'ai constaté que la demande pour les profs d'anglais était un peu moindre.
Ah oui.
Donc, un peu par hasard, je suis rentrée dans le système de l'éducation nationale et je suis devenue professeure suppléante. Donc, j'ai remplacé des profs. Alors, c'est assez drôle parce que parfois, j'ai remplacé des profs qui apparemment ne parlaient pas anglais.
Waouh ! Ils enseignent l'anglais ?
Oui.
Et comment ils font ? Ils parlent en yaourt ?
Ils parlent français, ils enseignent des règles de grammaire, ils ont leur CAPES, mais ils ne parlent pas.
C'est étonnant, ça.
Oui.
C'est comme si
c'est dommage.
Je parle à la télévision l'alsacien et je ne le pratique pas, quoi. C'est quand même incroyable.
Voilà, exactement.
Et donc, toi, tu interviens un peu comme un pompier de service et tu les remplaces, quoi.
Exactement. Et, ouais. Et pour l'anecdote, j'ai enseigné au lycée Sainte-Clotilde.
Ah, c'est un lycée de jeunes filles autrefois, ça. Ouais.
Aujourd'hui, c'est mixte, ouais. Mais ouais. Pour Bac Pro, le professeur en question leur avait dit d'apprendre un texte par cœur. Alors j'ai dit que je ne pensais pas que c'était ça l'exercice, qu'il fallait en fait, d'après ce que j'ai compris, décrire une image. Donc je leur ai dit, mais je vais vous apprendre à décrire une image.
Ah ouais.
Et ils m'ont dit que leur professeur avait dit qu'ils n'arriveraient jamais.
Ouais.
Et donc j'ai réussi, ils ont réussi leur épreuve et il y a même une jeune fille qui a pleuré après l'épreuve.
Wow.
Qui m'a dit, mais madame, jamais je n'aurais pu, je n'aurais cru parler français comme ça, anglais comme ça.
Ouais.
Donc j'étais contente.
Mais en fait, moi je me souviens de quelques souvenirs de scolaires quand j'étais effectivement à Sydney. Des fois je cherchais des mots anglais et grâce à l'alsacien, je les ai trouvés de temps en temps. Tu vois, le mot en alsacien, on dit l'hélice de l'avion, un propeller. Mais toi, tu dis la même chose,
propeller,
tu le dis un peu différemment.
Oui,
et donc, des fois, le dialecte, je réfléchissais, comme on dit en alsacien, je le transcrivais et puis j'arrivais à parler, quoi. Et après, c'est vrai qu'à quand on était à Sydney, les Français là-bas, pour les gens de là-bas, on était un peu des héros parce qu'ils disaient, ils parlaient de notre culture française, le fromage, comme tu disais, ils parlaient de Rousseau, enfin de gens qu'ils ont appris à l'école, des auteurs. Et de temps en temps, on avait l'occasion de discuter comme ça avec des gens pendant plusieurs heures et c'était très très enrichissant, quoi. Hein. Ouais. Et alors, je voulais te poser une petite question parce que comme je vous ai vu à la piscine nager, j'ai vu que de temps en temps, tu regardais dans la ligne de ton mari qui ne faisait pas les bons gestes, tu lui as enlevé les brassards.
Il est taquin.
il nageait plus avec les brassards, mais en fait,
j'ai l'habitude de l'eau, tu sais.
C'est vrai.
Je pratique beaucoup l'eau parce que je fais du hockey sur glace.
Ah, mais
c'est de l'eau qui est glacée.
C'est de l'eau glacée.
Et quand elle est liquide, je ne suis pas dans mon élément. Voilà.
Ah ouais, ouais. Non, mais j'exagère un peu, tu nageais quand même très très bien.
Je suis grand débutant.
Alors, ce qu'il faut savoir dans notre couple, c'est que pour la plupart des choses, quand les enfants me posent des questions, je dis va voir papa, demande à papa. Sauf dans 2 ou 3 sports. La natation.
C'est toi.
Le ski et l'équitation. Quand il s'agit de ces 3 sports-là, Raphaël dit regarde votre mère, Regardez comment elle fait.
Ah ouais.
Voilà, donc okay. Je suis l'experte pour ces trois sports-là.
Ces épreuves-là. Parce que des enfants aussi font du sport. Vos enfants pratiquent du sport.
Oui, alors j'ai deux enfants qui font du hockey sur glace.
Waouh. Quel âge ils ont ces garçons?
Alors, j'ai un garçon de 16 ans, une fille de 13 ans.
Waouh.
Mais qu'on est à Strasbourg, depuis 7-8 ans, ils pratiquent du hockey sur glace.
Hockey sur glace, ici à la patinoire.
Oui,
de...
tout à fait.
Le iceberg, hein, je crois que ça s'appelle.
Oui, c'est ça.
Mais je connais aussi l'entraîneur Bourdage, avec qui j'ai fait d'innombrables reportages.
Entraîneur de l'Étoile Noire.
Hein, voilà, c'est ça. Ouais, c'est beau. C'est très spectaculaire. Hein,
c'est magnifique. Moi,
c'est très télégénique, je trouve. Hein, c'est très, très beau.
Oui, a priori, ils ont même une nouvelle technologie pour qu'on suive un peu mieux le palais, parce que les gens se plaignent à la télé, on a du mal à suivre le mouvement du palais. C'est ça un peu la difficulté.
Et alors, j'ai une petite info, une petite anecdote, parce que Bourdage, c'est quelqu'un qui adore les casquettes et les chapeaux.
Ah bon ?
Chez lui, il habite à la Roberto, il a un panier plein de chapeaux qu'il ramène de tous ces pays où il voyage et tout. Et c'est quelqu'un de très charmant, avec
très
son accent canadien.
Qui l'a jamais perdu.
Oui, qui l'a jamais, il a bien fait. C'est comme un peu ton épouse qui garde aussi son bel accent. Hein.
Je fais pas exprès. Un peu moins que Jane Birkin, peut-être.
Ouais, mais elle le cultive, je pense. Et alors, tu m'as parlé de tes élèves, est-ce que les élèves sont assidus, ils parlent bien l'anglais?
Ça dépend, il y a un peu de tout. Là, dernièrement, j'étais à l'école Lort, j'avais une promotion des élèves en mode, des NMAD, et franchement, ils avaient un très très bon niveau.
D'accord.
En école d'ingénieur, il y a un niveau qui est exigé, c'est-à-dire le TOEIC, donc au niveau de la grammaire, c'est plutôt pas mal. Au niveau parler, ça dépend.
Ah d'accord. Je crois qu'on va se faire reposer un tout petit peu les oreilles. Fabien, on va mettre une petite musiquette qui va vous plaire. Écoutez-moi ça.
À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon bec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc. Les Mistral gagnants.
Alors, tu connais ça, les Mistral gagnants, tu étais jeune?
Je l'écoutais très, très, très souvent.
C'est beau, hein, ce qu'il chante. Magnifique. Je crois que c'est une des plus belles chansons.
Et tout l'album est magnifique.
Ah, tout l'album. J'ai eu la chance de le côtoyer, de le connaître un peu pendant les élections de Mitterrand. Il était là, il faisait toujours un peu la première partie musicale. Et je crois que Mitterrand le biberonnait un peu. C'était un peu son petit garçon. Et il se connaissait très, très bien. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est vrai que c'est un monsieur extraordinaire qui a une chanson qui donne la chair de poule, quoi. Hein.
Est-ce que celle-là, c'était pour sa fille?
C'était pour sa fille, quand elle était dans les parcs à Paris, où elle rencontrait les autres enfants et elle jouait. Puis il a fait cette chanson en même pas une demi-heure. Quoi. Il a écrit les textes rapidement, il a lu ça à son épouse, il a dit « il faut que tu en fasses une chanson » et il l'a faite. Alors moi, cette question en fait m'interpelle un peu. Qu'est-ce que vos roux-doudous à vous, c'est quoi, Joey? Qu'est-ce que tu sais ce que c'est que les roux-doudous? C'est ce qu'on achetait dans les petites épiceries quand on était gamin, les petits chewing-gums?
Oui, tout à fait. Alors moi, quand j'avais cet âge-là, j'habitais à Auckland, en Nouvelle-Zélande.
Ah waouh, t'as aussi été là-bas?
Voilà. Oh,
mais qu'est-ce que tu n'as pas fait, dis-moi?
Et nous, si on était sages, on recevait 20 cents pour acheter une glace.
Ah ouais, donc c'était pas cher les glaces?
Non, à l'époque, non. Alors dans la petite épicerie du coin, il y avait que de la glace à la vanille.
Ah ouais, c'est pas possible. Ah ouais.
Voilà, mais ça coûtait 20 cents. Et
c'était pas cher. Ouais.
Et si on était sage, on avait le droit à ça.
D'accord. Et ça te rappelle un peu ton enfance? Cette musique, elle te fait penser à quoi quand tu l'écoutes, Renaud?
Cette musique, pour moi, c'est la France. Donc
c'est
venu plus tard, mais...
C'est la poésie, quoi.
Ouais, tout à fait.
Et toi, Raphaël, raconte-moi un peu.
Les roux-doudous, c'était une sorte de petite guimauve comme ça, qui ressemblait à des billes...
Ouais, c'était puis, couleur rose et en fait on mettait une petite paille dedans et on susurrait comme ça.
Exactement. Et, puis, et ça m'est revenu plus tard quand j'étais au lycée, on est parti parce que c'était la réunification de l'Allemagne et la chute du mur.
Ouais, ouais.
Et là-bas ils étaient tout contents, ils m'ont raconté la fameuse blague parce que quand JFK est arrivé, il a dit Ich bin ein Berliner. Ils ont tous rigolé parce que Berliner c'est aussi le fameux petit bonbon quoi.
C'est le bonbon mais c'est aussi les Forse Nordkisch, les beignets, les berlines.
Alors, ça les a fait rire sur place.
Bah ouais, j'imagine.
Ils en rient encore, tu vois.
Et tu gardes un bon souvenir du mur qui est tombé. T'as vu ça à la télé?
Alors, non, moi je l'ai vu. C'est-à-dire, il était encore là. Je suis allé. C'était en novembre, le 9 novembre. Ouais. Et nous, on est allé au lycée. On était en février. Donc le mur était encore presque intact.
D'accord.
Et d'ailleurs, tous les soirs, il y avait une petite fête parce qu'on faisait tomber un nouveau morceau du mur.
Ouais, c'était super festif.
Et dès qu'on cassait des pierres, après on mettait la musique, on buvait des bières.
Et
depuis, l'amour de la bière est resté.
Tu as ramené un petit morceau.
J'ai ramené un petit morceau. Mais moi aussi, chez moi, j'ai
trois gros morceaux du mur. Quand il est tombé, j'en ai ramené. Et maintenant, ça a beaucoup de valeur parce que moi, j'ai ramené des blocs comme ça.
Mais il paraît qu'il y avait quoi, 190 km de mur.
À peu près, ouais, je crois.
Et en fait, il en a été vendu plus de 800.
Ouais,
donc, tu vois ce que je veux dire.
Donc, ils ont fait du béton, ils ont mis couleur sur les. Mais moi, j'ai des vrais que j'ai ramassés parce que j'ai eu la chance d'aller là-bas en tournage. Une fois que le mur est tombé, on a été là-bas et faire des tournages. Et ça, c'est aussi des souvenirs extraordinaires.
Ouais, est-ce que tu as eu la chance de voir tous les parkings avec les Trabants?
Avec les Trabants, on a même suivi des Trabants qui sont venus jusqu'ici en France. Et je peux te dire, sur l'autoroute, ça pétardait dans tous les sens, en panne, et puis il fallait mettre de l'huile avec de l'essence, un mélange. C'était des voitures en carton.
Je suis content d'avoir vu ça, parce que effectivement, tout a changé.
Cette vie là-bas a changé à ce qui paraît maintenant. De l'autre côté du mur, les appartements sont devenus très chers, c'est devenu un peu tous les bobos y habitent et tout.
Il y avait quand même des quartiers à Kreuzberg déjà, et je me rappelle un Schwarzcafé qui était complètement dans des caves très discrets, parce qu'à l'époque, tout était dans les arrière-cours.
Ouais, dans les ils devaient se cacher.
Donc tu avais une sorte de PMU à l'est, tu allais là-dedans, tu dis, oh là, on va s'embêter, etc. Tu ouvrais la porte, il y avait une énorme boîte de nuit complètement sauvage derrière.
Et alors, Raphaël, on parle depuis tout à l'heure, et je sais que ta femme, elle est prof d'anglais. Toi, tu fais quoi dans la vie?
Alors moi, justement, depuis un an, on a commencé aussi avec Penina, une start-up. En réalité.
Attends, Joey, non, tu dis?
Joy.
Ah, Joy,
Penina.
Ah oui, c'est vrai qu'elle a deux prénoms.
qui veut dire perle.
Oui,
c'est le nom de sa grand-mère.
C'est une perle rare.
Exactement. Et on revient sur la thématique de l'eau, bien sûr.
De l'eau, c'est bien parce que les perles se trouvent dans l'eau.
Exactement.
Alors, raconte-moi ton métier un peu, ce que tu fais.
Alors moi, je commence quelque chose de nouveau. J'ai toujours travaillé à l'interface entre, je suis juriste à la base et nouvelles technologies, donc j'ai toujours travaillé à l'interface du droit et des nouvelles technologies. Et chez des éditeurs juridiques. Et là, on a commencé un nouveau projet, ce qu'on appelle une legal startup, et dans le monde de la formation, où on met en contact entre les avocats qui veulent se former et être formés. Donc, ils auront les deux casquettes. Et ça, c'est nouveau parce que c'est un comportement qui est issu d'un changement de comportement qui vient du Covid. En fait, les gens sont habitués à travailler à distance.
Ah, d'accord. Mais tu penses que les avocats, ils ont encore besoin, une fois qu'ils sont au barreau, ils ont encore besoin de refaire des formations?
Non seulement ils ont besoin, parce que la loi change régulièrement, mais en plus, ils en ont l'obligation. Et donc, ils ont 20 heures chaque année de formation obligatoire.
Ah ouais, d'accord. Donc, c'est intéressant. Et ton métier d'avant, un peu, tu faisais quoi avant de faire ça? Tu étais juriste, tu disais?
Mon métier d'avant, effectivement, c'était de faciliter l'accession au texte pour les informaticiens, leur faire comprendre le contenu, parce que les informaticiens doivent mettre à disposition des juristes de l'information toujours à jour et toujours correcte.
D'accord. Alors dis-moi, vous avez une vie heureuse ici à Strasbourg avec ton mari et tes enfants? Vous êtes heureux ici?
Oui, on est très heureux. Mais comme notre fille aînée est déjà en Israël depuis 3 ans et qui s'apprête à rentrer dans l'armée.
Waouh!
Oui, je pense qu'on sera amené à retourner en Israël dès que les conditions matérielles.
Pour y habiter, pour quitter Strasbourg et habiter là-bas?
Je pense, oui.
C'est quelque chose qui. Pour quelle raison vous avez envie de rejoindre l'Israël? Parce que c'est votre famille là-bas, c'est vos racines, enfin.
Voilà, tout ça.
Par rapport à la religion.
On a fait notre alia la première fois parce qu'on voulait vivre dans notre terre ancestrale et c'est uniquement pour des conditions matérielles qu'on est revenu en France, mais on aimerait se réinstaller dès que possible.
Et c'est pas trop dangereux de vivre là-bas?
Ah non, pas du tout.
Pas trop.
Au contraire, on se sent très en sécurité là-bas.
Plus en sécurité que partout ailleurs.
Il y a beaucoup moins d'insécurité qu'ici, il y a des problèmes politiques, mais les gens
comme partout.
Mais tous les Israéliens, c'est une grande famille. Si votre enfant se fait mal, tout le monde vient à l'aide.
Ah ouais, c'est intéressant, c'est bien, ouais. Bah, en tout cas, j'étais très heureux de partager ce
Merci
moment
à
avec
toi.
Vous, grâce à ce bonnet-là que j'ai dans la main, le bonnet d'Australie.
Merci.
Et, Fabien, tu peux mettre le petit générique de fin, la musique de fin. Merci beaucoup pour votre invitation, d'être venu nous voir
parler. Avec plaisir, merci de l'invitation.
Moi aussi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer.
On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée.